Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque semaine pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel pour commencer notre émission comme chaque semaine. Bonsoir Rav Lemel.
Bonsoir.
Raveli Lemel, j'ai eu une idée pour cette semaine qui m'est toute personnelle, c'est de vous demander aux uns et aux autres un peu quel bilan vous tirez de l'année écoulée. Alors je sais que c'est l'année civile, d'ailleurs je pourrais commencer notre conversation par ça. Est-ce que vous acceptez cette balise comme une balise comme une autre, puisque faire le bilan c'est toujours une bonne idée, peut-être qu'on pourrait la faire tous les soirs. Et ce sera d'ailleurs effectivement la première question. Est-ce que vous pensez que c'est un moment de bilan aussi ou bien non, parce que c'est pas notre calendrier. Mais bon, cette année elle a quand même quelque chose de tout à fait particulier, avec beaucoup de gens disent l'année la pire qu'on pouvait imaginer, mais aussi des éléments d'espoir. On voit bien que par exemple Israël a signé la paix avec des pays auxquels on ne s'attendait pas du tout, comme les Émirats, peut-être moins comme le Maroc, mais comme le Soudan par exemple, ou Bahreïn. Quel bilan faites-vous de l'année qui s'est écoulée, Raveli Lemel?
Oui, en effet. Alors tout d'abord, bilan, je pense qu'en effet, on peut tous les jours faire un bilan. Et en tant que directeur d'une association, de toute façon, on sait très bien qu'au 31 décembre, il y a un bilan comptable à faire. Donc de toute façon, ce sont des dates qui comptent et qui font partie de notre calendrier. Évidemment, ce sont des dates qui font partie du calendrier qu'on ne peut pas occulter. Et puis, on est dans un univers dans lequel, eh bien, c'est une date qui représente un symbole, donc évidemment on peut pas l'occulter d'aucune manière. Néanmoins, si on avait envie de réfléchir à ce que l'on appelle donc l'année 2020, quels sont les éléments qui m'interpellent pendant cette année, une des choses qui m'a au fond le plus intéressé, c'était de voir quelle était la posture qu'ont eu les gens lorsqu'ils ont été confrontés à un questionnement qui est quand même pas simple, hein, sur la relation à la maladie, sur la relation au danger, sur cette nécessité de se protéger, et sans rentrer dans le drame, eh bien, je n'ai pas entendu véritablement de voix qui était là pour pouvoir nous aider à donner du sens. J'ai eu l'impression, en tout cas, qu'on s'est beaucoup intéressé à la gestion des choses, la gestion psychique, la gestion émotionnelle, la gestion aussi économique, la gestion médicale, et que eh bien, les réponses essentielles, elles étaient dans réapprendre à se tourner un petit peu plus vers soi-même. Vous savez qu'il y a une explosion des ventes dans tout ce qui a trait à l'univers de la maison. Je parlais récemment à une personne qui est un petit peu dans ce domaine et qui disait « mais c'est incroyable », c'est-à-dire tout le monde s'est dit « bon, ben, on va encore un petit peu s'occuper de soi, quoi ». On va s'occuper un petit peu plus de chez nous à la maison. Et j'ai comme souvenir ces fameux applaudissements à 20h le soir. Je me dis, bon, c'est très beau, c'est facile d'applaudir à ses fenêtres, et c'est déjà très bien, comme dirait l'autre. Mais concrètement, est-ce que ça a changé quelque chose dans le rapport à l'autre, dans la réalité quotidienne? Et quand on voit, par ailleurs, l'augmentation de la délinquance et tout ce qui tourne autour de cela, j'ai l'impression qu'au fond, on est un petit peu dans une société dans laquelle on manque de voix, voix V-O-I-E, V-O-I-X, hein, parce que les voix V-O-I-X sont censées ouvrir des voies, et c'est peut-être ça, au fond, qui m'a interpellé le plus. D'ailleurs, dans tous les univers, hein, on a l'impression que, eh bien, il nous manque un souffle qui est là pour donner du sens et pour pouvoir, à ce moment-là, incarner la manière dont on doit décider de vivre une situation pareille et en quoi elle peut être le support d'une pas de transformation, parce que je pense qu'il ne faut pas exagérer, mais en tout cas d'une manière différente de repenser sa relation à la vie et à notre implication à l'intérieur de notre existence, et qui n'est pas exclusivement tournée vers nous-mêmes, parce que je pense que même l'univers de l'altérité, souvent, il est là pour être de manière ultime tourné vers nous-mêmes. On a besoin d'avoir cette belle image de nous, et donc pour développer cette belle image de nous, on a tous tendance, hein, moi en tête, à vouloir s'impliquer au niveau des autres parce que ça construit de nous-mêmes une image qui nous plaît. C'est une analyse un petit peu dure, hein, que je fais, et je ne demande qu'une chose d'ailleurs, c'est que la réalité me prouve le contraire, parce que vous savez, dans ce genre de choses, on attend qu'un seul objectif, c'est que les gens vous disent « ben non, c'est faux, vous voyez bien que ça a changé et c'est génial, et si je me trompe, je serai le premier content, évidemment, par rapport à cela. » Au niveau de vous évoquez, entre autres, ce qui s'est passé en Israël avec ces fameux accords de paix, quelque part, cette rapidité avec laquelle ils se sont mis en place nous montre que peut-être, eh bien, il y a une forme de pragmatisme extrême dans les relations politiques. Et je ne suis pas sûr que, parce que l'on a fait la paix, nécessairement on s'apprécie, on s'aime les uns les autres. C'est tout simplement, on se dit au fond, est-ce que c'est véritablement si intéressant de continuer à être en conflit ? Est-ce qu'on ne perd pas plus à être en conflit qu'à ne pas l'être ? Alors, à nouveau, j'ose espérer me tromper, qu'il y a derrière cela des très très bons sentiments, des sentiments de fraternité et de respect, je l'espère très très fort. Je n'en suis pas sûr, mais au fond, d'un autre côté, savoir créer ce que j'appellerais une forme de paix des braves dans la série « Je te respecte, tu me respectes », et puis quelque part, on a des choses à mettre en commun parce que ça nous intéresse tous. Au fond, on n'a rien contre, on est même tous pour. Mais est-ce qu'il y a en profondeur un changement des mentalités dans le regard que l'on porte sur l'autre ? En tout cas, je m'interroge. Parce que, en dehors des moments symboliques, qui sont très beaux, qui sont très forts, vous savez, la notion de tshuva, de retour à soi, de se transformer, c'est un travail qui dure pendant des années et des années. Alors, s'imaginer qu'un état d'esprit au niveau d'une population peut changer du jour au lendemain, je suis très pour. Hein. Je suis très, très pour.
Et il y a peut-être un processus. Il y a peut-être un processus.
Oui, c'est pour cela, je dis, c'est peut-être le.
Comme vous disiez la semaine passée, vous disiez, il y a un processus. Ben, combien de temps on va être en conflit ? Mais peut-être. D'abord, déjà, il y a eu plusieurs cas de figure. On voit bien que les Émiratis veulent vraiment faire quelque chose, même du football avec les Israéliens, même des affaires, même du tourisme. Même... On aura des Émiratis qui iront se promener à Tel Aviv alors qu'on n'a jamais eu d'Égyptiens. Et on voit bien que Soudan, c'est tout à fait autre chose. Ils ont des problèmes politiques avec les Américains. Ils ont accepté, ils ont passé un deal. Donc il y a plusieurs cas de figure. Mais je voudrais rebondir, puisque je vous ai pris la parole, excusez-moi, Rav. En vous écoutant, je me rappelais un sociologue qui est plutôt d'ailleurs de tendance marxiste. Alors vous voyez, a priori, il n'est pas d'accord avec vous, ce sociologue. Mais il disait, c'est quand même incroyable la capacité du système à se régénérer sans jamais se remettre en cause. Et qu'est-ce qu'il disait ? Regardez là, donc on ne peut plus travailler dans des systèmes éprouvants de chaînes de production où finalement, lui il est très critique, donc, et il dit où finalement personne n'y a vraiment trouvé une forme de bonheur. Alors le système se régénère, maintenant on va télétravailler. Mais il n'y a personne qui s'est dit, on vit une période tellement révolutionnaire, tellement dramatique, tellement inattendue, que ça serait le moment de réfléchir, de se dire peut-être que la vie elle peut avoir un autre sens. Non. Là, tout de suite, le système a trouvé la solution, c'est on va télétravailler, c'est on va faire pareil, mais chez soi. Et après, si on va avoir un problème chez soi, eh bien, il va toujours trouver une autre solution pour surtout sauvegarder le système tel qu'il est. Ça vous interpelle, ce que dit ce sociologue ?
Ça m'interpelle d'autant plus que lorsque vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe dans le monde du télétravail, vous vous rendez compte que les gens travaillent encore plus, d'accord ? Donc, en tout cas, c'est ce qui ressort.
En étant plus seul.
Voilà, donc évidemment, il faudrait reprendre là pendant des heures et des heures sur la manière dont la Torah voit le Nisayon, voit l'épreuve, voit la situation de difficulté qui est là pour être un lieu de remise en cause, un lieu dans lequel on a, et c'est ça que le judaïsme propose au fond, la Torah, elle nous propose sans arrêt de reposer un autre regard sur une chose, c'est-à-dire de réinstaller une vision différentes des choses, et c'est vrai qu'ici, bon, ben, la valeur travail reste une valeur en tant que telle, alors qu'au fond, le travail n'est qu'un moyen d'accéder à quelque chose dont on a besoin, mais derrière le travail, il doit peut-être y avoir une autre finalité. L'augmentation très notable de ce qui se passe au niveau purement psychiatrique est très malheureusement révélatrice, eh bien, tout simplement de la question du sens, et je crois que sur cela, eh bien, nous sommes aujourd'hui, en tout cas dans les sociétés qui sont autour de nous, bien démunis d'un discours, mais d'un discours qui n'est pas juste qu'une parole, mais qui est incarné par des individus, parce qu'à la limite, le discours, on peut éventuellement l'élaborer, mais qui peut l'incarner ? Quand vous voyez qu'on parle d'un devenir, mais que la plupart de nos dirigeants en Europe n'ont eux-mêmes pas d'enfants, et que pour un certain nombre, c'est l'expression d'un véritable choix, on se dit, mais à un moment, on entend une parole qui parle d'un devenir, mais qui ne veut pas inscrire cette notion dans sa propre existence, ça interroge. Je ne suis pas du tout ici dans une quelconque forme de jugement, qu'on soit bien clair. Mais évidemment que, au moins, ça interroge. Évidemment, ça interroge. Parce que si on ne sait pas vraiment de quoi on parle, pourquoi est-ce qu'on parle ? Donc voilà, c'est un petit peu ça que ça ouvre comme réflexion chez moi, avec, et je crois, et si c'était bien un point central, c'est on a un manque de voix. On a réellement un manque de voix, et c'est ça, au fond, je crois qu'il faut essayer d'explorer comment se fait-il que les sociétés, que cet univers de la culture n'aient pas réussi à faire émerger des voix fortes qui, à un moment, ne sont pas là pour dire comment il faut vivre les choses, mais créer une dynamique pour aider les gens à s'interroger sur cela. On a l'impression qu'on va tourner sans arrêt autour de la notion du quant à soi, du développement personnel, du mieux-être. Bon, why not ? Mais est-ce que véritablement, c'est ça la finalité de l'humain ? Ça, c'est déjà une autre question.
Très belle question. Merci, Ravelli Lemel, pour ces réflexions en cette fin d'année, l'année 2020. Merci à vous et Shavua Tov ou Shabbat Shalom.
Shavua Tov et Shabbat Shalom.
Rav Mordechai Bitton est en ligne avec nous à présent de Jérusalem. Bonsoir, Rav Mordechai.
Bonsoir, Shalom Aleichem.
Alors, je vais vous demander à vous aussi quel bilan vous faites de cette année 2020 qui vient de s'écouler, cette année que plus personne ne veut revoir. Et on aura très peu de nostalgie probablement, alors qu'on peut aussi, et c'est là où les rabbanim sont importants, y voir des enseignements. Je voudrais réfléchir avec vous sur les différents aspects, mais aussi sur l'extraordinaire incertitude de cette année. C'est-à-dire que le premier confinement, en fait, il était étonnamment, là on voit aujourd'hui, facile. On avait un objectif, on savait combien de temps ça durait, on croyait que ça serait terminé en juin, et ça, on comprend. Depuis maintenant, quand même, pas mal de temps, on ne comprend plus rien. Et peut-être que ça peut être une clé d'entrée pour réfléchir, mais je ne parle pas à votre place, mais peut-être que ça, c'est un des... on va dire, un des gros dossiers de l'année 2020, Rav Mordechai Bitton.
Alors, moi, je voudrais commencer par dédramatiser, parce que ça me rappelle l'histoire de ce monsieur qui, en 2020, fête son anniversaire des 60 ans. Il se lève, il dit « Aujourd'hui, j'ai 59 ans ». Alors, il dit « Mais pourquoi t'as 59 ans, t'as pas 60 ans ?» Il dit « Non, parce que l'année qui vient de passer, j'en ai pas profité ». Alors, il préfère la rayer de sa mémoire. Je crois que cette année, en fait, c'est une année grandiose pour le peuple juif, et peut-être même pour l'humanité, parce que comme toutes les épreuves qu'on subit, c'est une occasion de grandir. Et pendant cette année, effectivement, on a vécu dans l'incertitude. On est confronté aujourd'hui à une pandémie, on ne sait pas maîtriser la pandémie encore, et on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on parle maintenant en décembre 2020, ça a commencé donc en février 2020, mais à l'époque, on était plus accessible d'une manière générale à cette idée que voilà, Hachem nous avait envoyé une épreuve, qu'on devait se tourner plus les uns vers les autres, comme le dit Raphaël Kieski, on devait plus réfléchir au bien-être les uns les autres, il fallait mettre des masques, alors on comprenait qu'il fallait peut-être parler un peu différemment, regarder le monde un peu différemment. Ces idées étaient accessibles. Et petit à petit, quand on s'est rendu compte que dans le corona, tout n'était pas blanc et tout n'était pas noir, quand on s'est rendu compte que la gestion du corona était vraiment à géométrie variable, alors là, du coup, une masse de gens se sont rabattus sur le complotisme, ou ce que j'appelle moi le péricomplotisme. C'est-à-dire cette espèce d'obsession de « on nous ment, on nous cache, on fait n'importe quoi, et tout, etc. » Et on est tous devenus complètement fous. Voilà, on est devenus fous avec finalement fous d'incertitude. Alors qu'en vérité, Il faut le savoir, et ça je voudrais donner sur cette idée d'incertitude un regard qui est celui de la Torah. J'ai raconté souvent cette histoire-là au sujet d'Auschwitz, mais je pense que c'est une histoire emblématique. Hein, et l'histoire de ce Rav qui arrive à Auschwitz, et il y a un capot qui veut le massacrer, qui lui dit « Où est ta femme? Où est ton Dieu ?» Alors il lui dit « Sache une chose, moi j'avais un rabbi, il ne posait pas de questions sur le projet divin, il a vécu longtemps, et tu sais pourquoi? C'est parce qu'il avait peur qu'on l'invite là-haut pour recevoir la réponse. » Et donc en fait, l'incertitude, c'est le plus sûr refuge de la survie du juif. C'est-à-dire que l'expression de la émouna, l'expression de la foi, l'expression du bitachon, de la confiance en Hachem, elle se manifeste précisément dans les moments où finalement on vit dans une incertitude économique, sanitaire, politique, géopolitique, etc. C'est le moment de savoir qu'il y a une main qui conduit l'histoire. Comme on dit en hébreu, l'histoire c'est esteria, esterka, c'est Dieu est caché dans l'histoire. Il y a une main qui conduit cette histoire, et en fait, il est clair que de nous maintenir aussi longtemps dans l'incertitude, c'est précisément pour nous renvoyer à cette idée que nous croyons tout contrôler. Et ça, c'est une idée qu'on admettait facilement et qu'aujourd'hui, avec la folie du péricomplotisme, on paraît fou quand on en parle. Mais c'est une idée centrale, c'est l'idée centrale de l'année 2020. On croyait tout contrôler sur le plan médical, scientifique, militaire, économique, et on ne contrôle rien. Alors qui contrôle? Hachem contrôle. Donc on va s'adresser à celui qui contrôle en lui disant de nous délivrer de cette pandémie, en lui disant qu'on a compris le message. C'est toi qui contrôle. En attendant, effectivement, on vit dans l'incertitude. Mais encore une fois, cette conscience de l'incertitude et cette conscience qu'il y a quelqu'un qui conduit l'histoire, c'est le plus sûr refuge dans ce genre de peine. Et quand je parle de refuge, je ne parle pas, comme Marx aurait dit, de l'opium du peuple. Je suis en train d'expliquer ici une valeur qui est une valeur de vie. La Emouna, elle commence finalement, quand on est dans la question. Elle s'exprime pleinement quand on est dans la question, quand on est dans l'incertitude. C'est là qu'elle s'exprime, c'est là que la prière prend toute sa force. Alors la Emouna, c'est quoi? C'est pas seulement de prier et d'espérer. Ça, c'est la première image, mais si on en reste là, on reste aux images d'Épinal. La Emouna, ça vient du mot émet, la vérité. Ça veut dire que ce qu'on nous demande ici, c'est de faire tout ce qui est en rapport avec la Emouna. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de période? Beaucoup de tzedaka, beaucoup d'entraide, beaucoup d'empathie, beaucoup de rapprochement. Or tout ça, on peut le dire d'une certaine manière, c'est un petit peu affolant, mais on a un petit peu loupé l'interro de ce point de vue-là. On a loupé l'interro. Et on a l'impression qu'au moment où le vaccin sort, d'un seul coup, tac, on nous ressort une nouvelle variante du virus, comme pour nous dire « Non, vous avez encore un effort à faire, réfléchissez un peu plus. » Comme si, en quelque sorte, au moment où on croyait à nouveau tout contrôler, on nous dit « Vous ne contrôlez rien. » Apprenez à vivre avec cette idée que ce n'est pas parce que vous, comme les constructeurs de la tour de Babel, il disait, tous les 1656 ans, le ciel s'effondre sous notre tête, on va construire des tours pour sauter le ciel. Ne croyez pas que vous allez sortir de cette crise avec une seringue. Ce n'est pas une petite piqûre dans l'épaule qui va vous faire sortir de cette histoire. Réfléchissez un petit peu plus loin que la seringue. Voilà, je crois que c'est, mettez-vous une injection des mounas. Prenez une injection des mounas. Je crois que c'est ça, un des messages les plus forts de cette année. Et là, au moment où je vous parle, c'est vraiment là le rebondissement extraordinaire de cette affaire. On est sur un vaccin, et on est déjà sur une mutation qui est une mutation qui nous apparaît, qui nous plonge complètement dans l'incertitude. Mais nous, pour nous, incertitude, ça veut dire Emouna. Là, je pense que ce qu'on peut avancer comme piste de réflexion sur cette année, effectivement, très troublée.
Eh bien, on va essayer d'y réfléchir et d'en sortir plus grand, si j'ai bien entendu ce que vous venez de nous dire. Merci à vous, Rav Mordechai Biton à Jérusalem. Bonsoir. Shalom Aleichem. Voilà, c'est à mon tour de vous souhaiter une bonne semaine, Shavuatov ou Shabbat Shalom si vous nous écoutez le vendredi après-midi en région ou sur la page Facebook de Radio Shalom, et à la semaine prochaine. Maria Chadré est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Maria Chadré.
Bonsoir Bernard.
Maria Chadré, déjà je vais vous poser une question. Ça vous gêne si on vous dit bonne année?
Ça me gêne, non, ça me gêne pas, mais je n'y accorde aucune importance.
C'est pas votre calendrier, quoi.
C'est pas vos fêtes. Aucune importance. Ce n'est qu'il ne faut pas que je me trompe quand je remplis mon chèque. C'est tout.
Alors, on va quand même faire un bilan avec vous, on va en profiter. Et donc, on vient de dire à l'instant, cette année quand même très très bizarre. D'ailleurs, peut-être que c'est ça l'enseignement, c'est que c'est bizarre. Mais je ne peux pas parler à votre place. Par contre, on a vu des percées au milieu de nulle part, la paix avec des pays comme Bahreïn, et puis tout d'un coup Bahreïn décide de faire la paix avec Israël. Bon, on l'a bien aidé, mais voilà, le Maroc, historique, berceau du judaïsme, et dans le même temps, on le voit, les Israéliens sont dans une panade par rapport au Covid, nous aussi, ici, à Paris, les familles n'arrive pas à se retrouver. Je ne vais pas vous faire le panneau, tout le monde le connaît par cœur, à commencer par vous qui enseignez chaque jour. Quel regard vous avez posé, vous, sur cette année 2020 que tout le monde dit vouloir jeter à la poubelle ?
Ouais, mais, eh bien moi, mis à part le problème, on va dire, que Dieu aide toutes les familles endeuillées ou qui ont eu des malades, ça, il ne faut absolument pas minimiser ça. Mais si je ne porte un regard que sur les, on va dire, sur les valeurs qu'a bousculé cette année, eh bien, je pense qu'elle était bénéfique. Ah donc, niveau santé, évidemment, bien sûr que non, mais au niveau du bouleversement que cette année a apporté aux valeurs que nous portons et au sacro-saint pouvoir économique dans le monde et au sacro-saint pouvoir médical dans le monde, eh bien, je crois que cette année, elle a été extrêmement utile en tous les cas pour que l'on
voilà,
porte
c'est
une
ça.
Nouvelle...
Voilà, c'est ça. Je n'ai pas osé vous interrompre. C'est bénéfique ou c'est nécessaire ? Parce que ce n'est pas pareil.
Écoutez, c'était utile. Je vais utiliser ce terme. C'est utile. Si on sait lire entre les lignes, c'est utile. Ça peut devenir bénéfique si on y crée du bénéfice et que vraiment, il y a des choses qui changent vraiment à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, c'était utile et il est évident qu'il est nécessaire de lire entre les lignes et de créer des sous-titres à cette année. Il ne faut pas la prendre telle qu'elle. Elle était différente, ce n'est pas par hasard. Nous qui sommes des juifs croyants, on sait que cette année a été orchestrée depuis les cieux. Et que quand il y a des bouleversements dans notre vie, c'est évidemment pour qu'on réfléchisse et éventuellement qu'on en tire des conclusions. Donc ici, les conclusions, bien sûr, sont multiples. Tout d'abord, la volonté de l'humanité, la volonté du monde, un peu comme à l'époque de la tour de Babel, où on a créé des tours de plus en une tour extrêmement haute pour défier le Créateur en lui disant bah, « on n'a pas besoin de toi », eh bien, je crois qu'ici, c'est un petit remake de la tour de Babel où finalement, on s'est rendu compte qu'on peut croire en la bourse, en le pouvoir de l'économie pour ceux qui avaient des économies florissantes et qui tout d'un coup se sont écroulés, se dire « mais c'était complètement imprévisible ». Le pouvoir sacro-saint des sciences. Moi, je m'arrête là-dessus. Les sciences que nous étudions, qu'on continue d'étudier, qu'il faut étudier, hein, il faut un vaccin, tout ça, c'est sûr et certain. Mais quand même, cette année aura été marquée par les nombreuses annonces contradictoires qui ont été faites. Je parle au niveau scientifique.
Ah, magnifique. Magnifique, Maya Chak, vous êtes magnifique. J'étais en train de vous écouter et je me disais, mais pourquoi personne ne parle de cette question de la vérité ? Il y a quand même...
Voilà.
C'est énorme comme débat.
Ça, c'est énorme. Donc, il ne faut pas faire de tests. Il ne faut pas tester tout le monde. Évidemment, il n'en avait pas en mars. Jusqu'à ensuite, on teste à outrance et on ne sait même plus pourquoi on teste parce qu'on peut plus, on n'est pas capable de tester et tracer, comme il le disait. C'est-à-dire qu'on a entendu, mais ça, c'est un seul exemple, on a entendu une chose et son contraire sans arrêt, par la bouche de scientifiques ou de pseudo. Donc là, quand même, ça mérite qu'on s'arrête deux secondes sur le pouvoir de la science. Évidemment, Dieu nous a donné l'intelligence pour que l'on comprenne son monde, pour qu'on le comprenne, le monde de la chimie, de la physique, de la biologie, mais nous sommes minuscules. Et je crois que cette pandémie mondiale qui a touché le monde entier nous oblige à cette humilité et nous oblige à cette réflexion. Vous savez, cette réflexion, elle est écrite textuellement dans le texte de Devarim, dans le cinquième livre de la Torah, où Dieu dit « Vous vous rebellez, vous vous êtes rebellés et vous avez dit « Kochi v'otsem yadi asa et achail », c'est-à-dire « Ma force et la puissance de ma main a créé tout cela ». C'est-à-dire cet orgueil-là de se dire « on sait, on est capable, on peut prévoir », eh bien non, on ne peut pas. Et donc là, je crois que c'est une leçon d'humilité magistrale à ce niveau-là. L'autre élément que je garde très fortement en mémoire, et j'espère que nous allons le garder. Vraiment, j'espère qu'il va rester présent. C'est la folie furieuse du monde du paraître vis-à-vis du monde de l'être. Le monde du paraître, c'est le monde des fêtes à outrance, des débordements au niveau financier, de ce que les personnes vont vouloir montrer qu'ils ont quand ils font des fêtes, et jusqu'à en perdre le sens de la fête, le sens d'une naissance, d'une bar mitzvah, d'un mariage, d'un sheva brachot. Et on a été vraiment, vraiment obligés de re-réfléchir à nos fêtes, de re-réfléchir à l'essentiel, aux priorités et aux secondaires. Et alors moi, je reçois depuis le début de la pandémie un nombre d'appels très considérable de jeunes mariés en larmes qui ne veulent pas renoncer à leur beau mariage. Mais ça, vraiment, quotidiennement, j'ai des appels de cet ordre-là.
Non, pas jeunes mariés, alors jeunes Khatan et Kala, quoi, avant le mariage.
Voilà, avant le mariage. Ouais. J'ai écrit un long texte à l'attention des mariés, qu'il faudrait peut-être que je republie encore, parce qu'il reste, tout à fait d'actualité, mais je l'avais écrit au mois de mai, à peu près. Ça concernait même ma fille, qui était une mariée, et on ne savait pas comment organiser ce mariage. Finalement, grâce à Dieu, il a pu se faire. Et finalement, jusqu'à maintenant, je reçois encore ces appels. Et je crois qu'ici, il y a une vraie réflexion à avoir. Je comprends, la peine des mariés qui veulent avoir leur fête. Oui, mais quelle fête ? Oui, mais pourquoi la fête ? Et re-réfléchir aux fondamentaux de ce que c'est que s'unir, pourquoi on passe sous la roupa, quel est notre objectif, qu'est-ce qu'il y a derrière cette fête ? On est obligé de se poser cette question. Et je vais vous raconter une anecdote à ce propos, mais je crois qu'elle est très parlante. Pendant de très nombreuses années, j'ai été madrichat kala. Donc, je reçois les mariés chez moi pour les préparer, évidemment, à minima aux lois de la Tahara, aux lois du Mikvé, mais en réalité, il s'agit d'une casquette beaucoup plus large parce qu'on parle de la vie de couple et on parle des mouvements du masculin et du féminin. Et donc, ce sont beaucoup, beaucoup d'heures que l'on donne à ces jeunes mariés avec beaucoup d'affection, beaucoup d'attention, donc pour qu'ils puissent démarrer sereinement dans la vie. Et on y accorde beaucoup, beaucoup de temps, une vingtaine d'heures en moyenne pour chaque marié. Et bien souvent, les mariés racontent en détail la robe, c'est normal, la salle, le foie gras, ceci, cela. Et ils accordent une importance énorme aux détails de la fête, aux détails visibles et matériels de la fête. Et moi, je sens qu'on est au cœur du propos. Il y a la fête, c'est l'emballage, mais quand on parle des cours de préparation au mariage, on parle du cœur du couple, de ce qui donnera vie au couple. Et tous les efforts sont mis au niveau de la fête, et si peu, et là, je lance un petit cri sur vos ondes, les madrichot kala, les formatrices de kala cessent, et moi la première, j'ai cessé d'être formatrice de kala, et j'ai énormément de personnes qui me disent qu'elles ont cessé, parce que c'est un travail qui n'est pas rémunéré, du tout, c'est un travail qui est bénévole, et souvent les personnes n'ont même pas l'idée de faire un cadeau, de donner un don, alors qu'ils nous parlent en long et en large des efforts qui vont être faits.
Du traiteur et de la vidéo.
Voilà, pour faire la...
Terrible.
Des dizaines de fois, jusqu'à en être épuisé et cesser de former les calottes. Et donc, je crois que cette pandémie, elle nous a remis à l'ordre du jour la question sur quoi veut-on s'investir dans la vie ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Et finalement, à travers, je vous dis de façon anecdotique, pourquoi est-ce qu'on est prêt à payer matériellement ? Finalement, c'est cette question qui est posée. Quel est le centre de ma préoccupation ? Est-ce que je veux préparer des années mon mariage, la fête, ou est-ce que je veux investir du temps pour préparer mon mariage, la rencontre entre deux personnes ? Et finalement, le fait qu'à cause de cette pandémie, on ne peut plus se réunir les uns les autres, eh bien finalement, je crois que c'est pour nous inviter. Et je parlais tout à l'heure de la tour de Babel, suite à la tour de Babel, on a été éparpillés. Et ben, je crois que là aussi, cette pandémie nous a éparpillés. Mais il y a eu des Zooms, mais il y a eu des appels téléphoniques, mais il y a eu des documentaires ou des témoignages de personnes qui allaient jusqu'à la porte de l'hôpital ou jusqu'à la porte de la maison de retraite pour dire à l'autre « je suis là, je ne t'oublie pas », pour envoyer des lettres, pour écrire des mots, pour faire des cadeaux, pour livrer des choses qui vont leur faire plaisir. C'est-à-dire que cette pandémie nous a invités à être créatifs et à trouver des moyens d'autres moyens pour dire à l'autre qu'on l'aime. Et finalement, pour reprendre la paracha de Vaïgash et de Vaïri, qui était la paracha de la réconciliation, eh bien, finalement, cette pandémie nous a obligés à nous éloigner physiquement, mais peut-être pour nous obliger à réfléchir à ce que signifie la proximité et à quel point elle nous est précieuse, la proximité. Donc, se marier malgré tout, être proches les uns des autres malgré tout, re-réfléchir à nos valeurs dans la vie, à nos priorités dans la vie, voilà, autant de, et puis l'humilité face à l'économie et face à la science. Voilà, autant de réflexions sur l'année 2020. Alors, on souhaite que, bien sûr, cette pandémie s'arrête. De toute façon, je crois que le vaccin est à nos portes et il présage des bonnes choses, espérons-le.
Amen.
Espérons-le, mais gardons en tête les messages de l'année 2020.
Et faisant son des enseignements, j'ai bien entendu ce que vous disiez. Parce que pas, voilà, on a vécu ça. Un que vous cherchiez le mot, vous disiez utile, je vais dire utile, donc enseignement. Et juste un mot pour conclure, si j'ose dire, je n'ai pas à conclure. Donc disons un mot que m'a évoqué votre réflexion, on se marie pas, on se marie pour commencer une vie ensemble. C'est-à-dire, c'est pas le mariage qui va être le début. On s'endette, on se marie et après les premières années sont là pour rembourser les dettes. Je sais pas comment dire ça, mais je pense que ça a l'air très important ce que vous avez dit. Mariacha, merci. Et Shavua Tov et Shabbat Shalom. Tout dépend de l'heure à laquelle les gens nous écouteront. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir. Shalom leivoy naboy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mai, Hashem lo yine bayis. Shalom leivoy naboy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mai.